Quand on pense à l'histoire religieuse antique, on a très souvent cette espèce d'image d'Épinal en tête.
Oh oui, le cliché parfait.
C'est ça, des palais de marbre immaculé, des personnages en toge blanche impeccable qui débattent sereinement de concepts philosophiques sur les marches d'un temple baigné de lumière.
Avec une petite brise légère, quoi.
Exactement. C'est une vision très aseptisée, presque cinématographique, et le truc, c'est que ça nous déconnecte totalement de la réalité viscérale de l'époque.
Ah bah, ça l'occulte complètement. Cette vision idéalisée, elle efface toutes les dynamiques sociales et économiques réelles. Je veux dire, le monde du 1er siècle, c'était bruyant, c'était d'une saleté repoussante pour nos standards modernes, et surtout, c'était défini par une lutte de tous les instants pour la survie quotidienne.
Et c'est pile pour ça que j'avais vraiment hâte qu'on plonge dans nos sources aujourd'hui.
Je suis ravie qu'on le fasse.
J'ai passé pas mal de temps à décortiquer les recherches du docteur Craig Kinner, spécifiquement son analyse hyper pointue sur le chapitre 18 des Actes des Apôtres. Et franchement, ça remet absolument tout en perspective.
C'est un texte fascinant quand on l'analyse sous ce prisme.
Ouais, le but de notre exploration d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est d'abandonner cette lecture traditionnelle, un peu trop pieuse et détachée, pour comprendre comment un mouvement capable de redéfinir l'histoire mondiale a réellement pris racine.
C'est la vraie question.
Et petit spoiler pour notre auditoire, ça ne s'est pas passé dans des palais dorés, mais littéralement entre des chutes de cuir puantes et des pots de chambre jetés par les fenêtres.
C'est un contraste saisissant avec l'image classique dont tu parlais. Et pour saisir la mécanique de ce mouvement, il faut examiner son incubateur. L'ancrage de toute cette histoire, c'est l'arrivée de l'apôtre Paul dans la ville de Corinthe.
Posons justement le décor de cette arrivée. D'après les textes, quand Paul débarque à Corinthe, il est dans un état physique et psychologique, enfin lamentable.
Complètement épuisé, oui.
Il arrive de Macédoine, où il a subi des persécutions hyper violentes, des lynchages publics. Donc il cherche clairement un point de chute pour souffler.
Ce qui est compréhensible.
Sauf que, de toutes les villes de l'Empire romain, Corinthe semble être le choix le plus absurde pour se reposer. C'était tout sauf une retraite paisible à la campagne.
Ah bah, c'était l'épicentre du chaos urbain. Corinthe, c'est pas juste une simple bourgade grecque. À l'époque, c'est la capitale de la province d'Achaïe.
Ouais, une grosse métropole.
Et son histoire récente est cruciale. Elle a été entièrement refondée par Jules César en tant que colonie romaine. Ça veut dire que sa population n'a rien à voir avec le reste de la Grèce. On y trouve un mélange vraiment explosif. T'as d'anciens vétérans des légions romaines, des esclaves affranchis venus de tout l'Empire, et toute une classe d'entrepreneurs, de nouveaux riches, quoi.
Des gens déterminés à faire fortune par tous les moyens.
C'est ça, l'ambiance est hyper compétitive.
Et ça se voit même dans les registres d'état civil de l'époque. Moi, j'ai été frappé par un détail démographique dans les notes de Kenner. La proportion de noms latins à Corinthe est totalement anormale.
Oui, c'est un excellent indicateur.
Près de la moitié des chrétiens mentionnés dans la correspondance corinthienne tentent des noms romains. Pour une ville qui est située en plein cœur de la Grèce, c'est genre 10 fois supérieur à ce qu'on devrait trouver statistiquement.
Ça montre bien à quel point l'influence de Rome saturait chaque rue de la ville. Et cette influence s'explique avant tout par la géographie stratégique du lieu. Corinthe contrôle l'isthme qui relie le Péloponnèse au reste de la Grèce continentale.
Le fameux goulot d'étranglement.
Voilà. Et dans le monde maritime antique, contourner le sud du Péloponnèse, en particulier le cap Matapan, c'était un véritable cauchemar. C'était redouté par absolument tous les marins, à cause des tempêtes soudaines et des récifs.
Donc, passer par la mer, c'était quasiment du suicide économique pour certaines cargaisons.
Exactement. Et la solution ingénieuse des Corinthiens a été d'exploiter cette géographie avec ce qu'on appelle le diolkos.
Alors ce diolkos, il faut vraiment qu'on s'y arrête 2 secondes, parce que c'est une merveille d'ingénierie qui me fascine totalement.
Vas-y, je t'écoute.
Si je comprends bien les sources, au lieu de risquer de perdre les navires en mer, les marchands arrivaient dans un port. On sortait carrément les bateaux de l'eau pour les poser sur d'immenses chariots à roues.
C'est une logistique folle pour l'époque.
Mais carrément. Et ensuite, des esclaves ou des animaux de trait tiraient l'ensemble de la cargaison sur une piste pavée qui traversait les terres sur plusieurs kilomètres jusqu'à la mer de l'autre côté.
C'est exactement ça. Et le gain de temps et de sécurité justifiait largement les taxes exorbitantes que la ville prélevait au passage.
J'imagine, oui.
Ce trafic ininterrompu faisait de Corinthe un endroit par lequel transitait une grande partie de la richesse de toute la Méditerranée.
Quand on compile tout ça, les brassages de capitaux, l'innovation technologique du diolkos, cette population de parvenus, moi ça me fait penser à une métaphore moderne.
Ah oui, laquelle ?
C'est genre comme si on avait fusionné l'énergie de Las Vegas, l'importance stratégique du canal de Panama et l'ascension sociale frénétique de la Silicon Valley.
C'est une excellente comparaison.
Tout ça condensé dans un même port. Mais bon, Qui dit grand port de transit, dit aussi distraction pour les marins.
Évidemment.
La réputation de la ville était tellement sulfureuse qu'un verbe avait carrément été créé à l'époque.
Le fameux verbe corinthianiser.
C'est ça, corinthianiser. Ce qui voulait dire vivre dans la débauche sexuelle la plus totale. Et c'est là que j'en viens à une vraie interrogation.
Je sens que tu vas parler de stratégie.
Bah oui, parce que si on veut promouvoir un message religieux qui prône une certaine rigueur morale, n'est-ce pas la pire stratégie au monde de s'installer au cœur d'une sorte de Las Vegas de l'Antiquité ?
C'est contre-intuitif, c'est vrai. Mais en fait, d'un point de vue purement sociologique et stratégique, c'est l'emplacement optimal. Le génie de cette implantation, c'est l'audience captive.
Ah, l'audience captive, tu veux dire que les gens ne pouvaient pas partir ?
Pas tout de suite, non. Paul n'a pas besoin de s'épuiser à voyager de ville en province pour trouver un public. Le monde entier passe littéralement le pas de ce porte.
C'est le carrefour obligatoire.
Les marchands, les marins, les voyageurs d'affaires restaient souvent coincés à Corinthe pendant des jours, voire des semaines, en attendant que leur navire franchisse l'isthme sur ce fameux Diolkos. Donc une idée communiquée à Corinthe pouvait ensuite voyager sur ces mêmes navires vers l'Asie mineure, l'Égypte ou Rome, à une vitesse fulgurante.
Donc au lieu d'aller vers le monde vient à lui.
C'est tout à fait ça.
Mais parmi ce flot continu de voyageurs commerciaux, il y a aussi ceux que la géopolitique a violemment poussés sur les routes.
Les réfugiés, oui.
Et c'est là que notre réfugié fraîchement arrivé de Macédoine, Paul, rencontre deux autres personnages clés dans la ville. Priscille, qui est souvent appelée Prisca, et son mari Aquila. Et les notes de recherche du docteur Kinner soulignent un détail fascinant sur ce couple.
Lequel ?
Dans la majorité des mentions textuelles qu'on a, Prisca est nommée en premier avant son mari.
Ce qui n'est pas anodin du tout.
Aujourd'hui, on n'y prêterait aucune attention, mais dans l'Antiquité, c'était un indicateur social très fort, non ? Ça veut dire qu'elle avait un rang supérieur.
Absolument. Les conventions sociales de l'Empire romain étaient extrêmement strictes sur ce point. Si une femme est nommée avant son mari dans un texte, c'est presque invariablement le signe d'un statut social ou d'une lignée plus prestigieuse.
D'accord.
Les historiens suggèrent que Prisca pourrait avoir été une citoyenne romaine issue de la très puissante et aristocratique gens Prisca.
Ah oui, carrément la haute société romaine.
Voilà. Tandis qu'Aquila, qui était d'origine juive du Pont, était probablement un ancien esclave affranchi.
Donc c'est un mariage très atypique.
Ce mariage transversal entre les classes sociales, c'était rare, mais c'était possible. Mais ce qui est central ici, c'est la raison pour laquelle un couple possédant un tel capital social se retrouve soudainement sur les routes, échoué à Corinthe.
Et la raison de leur exil, c'est une crise géopolitique majeure provoquée par l'homme le plus puissant de la planète, l'empereur Claude depuis Rome, qui promulgue un édit d'expulsion.
Un décret très brutal.
Tous les juifs de Rome doivent quitter la capitale. Et ce qui donne un poids incroyable à cette histoire pour nous, c'est qu'on a un recoupement absolu entre nos sources religieuses et les archives laïques romaines.
L'histoire de Suétone, n'est-ce pas ça ?
Exactement, l'historien romain Suétone parle explicitement de cet événement. Mais alors, le motif donné par Suétone me laisse un peu perplexe.
Pourquoi ça ?
Il écrit que l'expulsion est due à des émeutes constantes à Rome, provoquées par un agitateur nommé Crestus. Attends, avec un E. Est-ce que les Romains ont juste fait une énorme faute de frappe qui a changé l'histoire ?
C'est une excellente question. Et l'erreur de Suétone, en fait, elle est révélatrice du gouffre culturel énorme de l'époque. Crestus, avec un E, c'était un nom gréco-romain extrêmement commun. On le donnait souvent à des esclaves parce que ça signifie « utile » ou « bon ».
Genre le bon à tout faire.
C'est ça. Alors que Christus, avec un I, c'est la traduction grecque du concept hébreu de « messie », c'est-à-dire « loin ».
Ah, la nuance est fondamentale.
Pour les magistrats romains qui étaient chargés de maintenir l'ordre public, les nuances théologiques internes à la communauté juive, c'était totalement incompréhensible.
Donc, quand ils entendaient des foules se disputer violemment au sujet d'un Christus, ils comprenaient juste que deux factions s'entretuaient pour un certain Crestus.
C'est ça.
Un type qui devait habiter dans le quartier, quoi.
Voilà, ils pensaient à un agitateur de rue. Mais la confusion va encore plus loin sur le plan politique. Le terme Christus, le Messie, désigne par définition un roi.
Oula !
Un roi à Rome.
Bah oui, il faut se placer du point de vue de l'administration impériale. Ils ont une minorité religieuse en plein cœur de la capitale qui provoque des émeutes en débattant de la légitimité d'un nouveau roi.
Ça sent la trahison pour eux.
Pour Rome, ce n'est pas du tout une question de religion ou de liberté de conscience. Débattre d'un nouveau souverain dans la ville de l'empereur, c'est la définition même de la sédition politique.
C'est un acte de terrorisme intellectuel presque. Et la réponse de Claude a donc été radicale. Expulser toute la communauté pour éteindre ce qu'il percevait comme une menace directe à l'ordre impérial.
C'est vertigineux quand on y pense, quand même. Un débat purement théologique dans les arrière-cours de Rome est mal interprété comme une tentative de coup d'État par le pouvoir impérial.
Avec des conséquences désastreuses.
Ça déclenche une crise migratoire massive. Et c'est cette onde de choc qui pousse notre couple de la haute société, Prisca et Aquila, à plier bagages en urgence, à perdre probablement une énorme partie de leurs biens et à atterrir dans ce carrefour chaotique qu'est Corinthe.
Où ils croisent Paul.
Voilà, et ça nous amène direct à la question de la survie matérielle. On a des réfugiés dans une ville réputée pour sa cherté de vie.
Et sans réseau sur place.
Il n'y a pas d'anges qui descendent du ciel pour payer leur loyer à la fin du mois. Le docteur Kinner souligne très bien qu'ils survivaient par un travail manuel acharné.
C'est le cœur de leur quotidien à Corinthe.
On entend souvent le terme « fabricant de tentes » dans les traductions classiques, mais la réalité de leur métier était bien plus vaste et bien plus rude.
Oh oui. Le terme grec original, en fait, englobe le travail du cuir en général. Et c'est une industrie lourde pour l'époque. C'est pas de la petite couture, hein.
Qu'est-ce que ça implique, concrètement?
Ça impliquait la coupe de peau hyper épaisse, l'utilisation d'haleines aiguisées pour percer la matière, la manipulation de couteaux semi-circulaires pour la découpe, et surtout, le traitement du cuir avec des huiles aux odeurs particulièrement tenaces.
L'odeur devait être abominable.
Intenable. Et on parle de journées de travail d'au moins 12 heures où tu es courbé sur des tabourets bas, tout ça simplement pour gagner de quoi acheter son pain quotidien.
Voilà, c'est épuisant. Et le contraste culturel autour de ce travail manuel à l'époque, il est frappant. Moi, j'ai lu les auteurs romains contemporains et le mépris pour l'artisanat, il est absolu chez eux.
L'élite romaine détestait le travail manuel.
Cicéron, par exemple, il écrivait noir sur blanc qu'aucun atelier ne convenait à un homme libre, que c'était intellectuellement dégradant. Du coup, comment Paul pouvait-il espérer être pris au sérieux en tant que penseur s'il passait ses journées les mains couvertes de graisse de cuir puante?
C'est parce que la perspective romaine n'était pas du tout la sienne.
Comment ça?
Paul était issu d'une double culture et dans la tradition rabbinique dont il vient, le travail physique... C'est pas une tare, c'est carrément une obligation morale.
Ah, c'est l'inverse de Rome.
Totalement. Les grands penseurs juifs de l'époque, comme le rabbin Shemaya, enseignaient qu'il fallait aimer le travail. Maîtriser un métier manuel, même quand on consacrait sa vie à l'étude des textes sacrés, ça garantissait une chose fondamentale pour eux.
L'indépendance.
Exactement, l'indépendance. Ça empêchait le sage de devenir un fardeau pour sa communauté, ou, et c'est le pire scénario, de devoir monnayer ses enseignements pour survivre.
Et justement, l'indépendance, il faut qu'on en parle. Parce qu'à Corinthe, la concurrence sur le marché des idées, elle était féroce.
C'était une vraie foire d'empoigne.
La ville grouillait de philosophes itinérants. Mais leur méthode à eux, pour éviter d'avoir à travailler le cuir ou de se salir les mains, c'était pour le moins créatif.
Oh oui, il y avait de tout.
Certains demandaient des frais de scolarité astronomiques, d'autres cherchaient carrément un riche mécène pour les entretenir, et ils devenaient de petits philosophes de cour. Mais mes préférés dans cette galerie de personnages, ce sont les philosophes dits cyniques.
Ah, les fameux cyniques.
Les sources décrivent des comportements d'une arrogance incroyable. Ils avaient fait de la mendicité agressive une forme d'art, quoi. J'ai lu dans l'analyse qu'ils s'entraînaient à mendier auprès de statues de marbre immobile.
Oui, des statues dures.
Juste pour s'habituer émotionnellement au rejet. Et le pire, c'est quand un riche patricien avait le malheur de les inviter à sa table. J'ai lu qu'un de ces cyniques a trouvé le moyen de cracher directement sur les genoux de son hôte.
C'est fou.
Sous prétexte que la maison était trop luxueuse et que les genoux du mec, c'était le seul endroit assez laid pour recevoir son crachat.
Le cynisme antique, faut comprendre que ça reposait entièrement sur ce type de performance hyper théâtrale et choquante.
C'était du spectacle.
C'est ça. Le but, c'était de démontrer leur mépris total pour les conventions matérielles. Cependant, et c'est ça le vrai paradoxe, cette provocation masquait une autre forme de dépendance.
Une dépendance au public.
Pire, une dépendance financière qu'il mendie de manière agressive ou qu'il flatte les riches en devenant leurs clients, tous ces philosophes étaient pris au piège du système romain fondamental qui est le clientélisme.
Le fameux système patron-client.
Oui. À Rome, si un patricien finance ton existence, il possède implicitement ta loyauté et il peut influencer ton discours.
Et c'est ça que Paul veut éviter à tout prix.
La stratégie de Paul, en optant pour le travail hyper épuisant du cuir, elle prend alors tout son sens politique et social. Il refuse de se lier à un mécène pour que son message reste insoumis aux pressions des élites locales.
Il garde sa liberté de parole totale, en fait. Et il y a aussi une dynamique très pragmatique à ce choix de l'atelier de cuir qui est souvent ignorée, je trouve.
Au niveau de la conversation.
Oui, parce qu'un forgeron, par exemple, il tape sur du métal à grands coups de marteau toute la journée.
Impossible de discuter avec un tel vacarme.
C'est ça, le bruit est tel qu'il est impossible de s'entendre penser, et encore moins de tenir un discours philosophique complexe sur la théologie.
Alors que le cuir ?
Alors que couper du cuir, faire des coutures imperméables, c'est physique, mais c'est une activité relativement silencieuse. L'historien Ronald Hoch a démontré que ces ateliers étaient des véritables carrefours sociaux.
Des lieux de passage continuels.
C'était une sorte de salon de coiffure de l'Antiquité, quoi. Des clients venaient commander des ceintures ou réparer des sandales, ils s'asseyaient et la conversation s'engageait très naturellement.
Et le message de Paul se propageait ainsi, au rythme lent de l'aiguille qui perçait le cuir.
De manière totalement horizontale.
De travailleur à travailleur. Le lieu de travail n'était pas séparé du lieu de mission, c'en était le canal principal. Mais il faut aussi réaliser un autre aspect de ces vies précaires. Cet atelier s'était bien souvent intégré au lieu de vie lui-même. L'artisan dormait souvent là où il travaillait.
Ah ouais. Ce qui nous pousse du coup à regarder de plus près la réalité de l'urbanisme de cette époque.
Et c'est pas joli à voir.
On a tellement souvent l'image des villas romaines super spacieuses avec leurs cours intérieurs, les fontaines.
L'atrium, les fresques.
Voilà. Mais pour l'écrasante majorité de la population dans ces mégalopoles, la vie elle était brutale. Les appartements de l'Antiquité y fonctionnaient carrément à l'envers de nos immeubles modernes.
C'est un système inversé, oui.
Aujourd'hui, les riches sont au dernier étage, dans le penthouse. À l'époque, les riches et les classes moyennes supérieures y vivaient au rez-de-chaussée.
À l'abri, au frais et surtout près des points d'eau.
C'est ça. Et plus on montait dans les étages de ces en-dessous-là, ces gros blocs d'habitation romains, plus les loyers baissaient et plus les conditions devenaient hyper précaires. Les structures en bois des étages supérieurs menaçaient constamment de s'effondrer.
Et en hiver, les pauvres devaient se chauffer avec de petits braseros à charbon, ce qui causait, tu t'en doutes, des incendies ravageurs réguliers. L'insécurité physique était vraiment omniprésente.
C'est un cauchemar quotidien.
Il n'y avait donc ni eau, ni système d'évacuation sanitaire en hauteur.
Et c'est là qu'on arrive à une pratique urbaine effrayante.
Allez, dis-le.
Les habitants des étages se contentaient de jeter leurs déchets domestiques, et notamment le contenu de leurs pots de chambre, directement par les fenêtres, dans les ruelles étroites en contrebas.
C'était la norme sanitaire de l'époque.
Faut s'imaginer la scène, quoi. Marcher dans Corinthe juste pour aller acheter du pain, ça comportait le risque réel de recevoir des excréments sur la tête. On est vraiment très loin de la philosophie sereine sur les marches du temple en marbre.
Oh que oui. Et le problème, c'est que ce n'était pas juste désagréable, c'était mortel.
Mortel, carrément.
Bah oui, les registres administratifs qu'on a retrouvés en Égypte, que les démographes utilisent pour modéliser les taux de l'Empire romain, ils brossent un tableau macabre.
Les chiffres sont terribles, oui.
La mortalité infantile frôlait les 50%. La moitié des enfants n'atteignaient même pas l'âge adulte à cause des maladies directement liées à cette hygiène désastreuse.
Un enfant sur deux.
C'était un monde où la vie ne tenait qu'à un fil. L'environnement était profondément hostile et c'est en comprenant cette précarité absolue que l'on saisit la fonction vitale de ce qu'on a appelé les églises de maison.
Oui, parce que l'expression « église de maison », ça semble hyper formel aujourd'hui. On s'imagine une chapelle dans un salon. Mais la réalité logistique, elle était beaucoup plus intime, non ?
Très intime, oui. Les maisons des citoyens aisés comprenaient une salle à manger formelle, ce qu'on appelle le « triclinium ». Selon les standards architecturaux de Rome, on pouvait y installer des banquettes pour environ 9 à 12 personnes allongées.
12 personnes max.
Et si l'assemblée s'agrandissait un peu, elle débordait dans l'espace adjacent, l'atrium, qui pouvait accueillir tout au plus 30 ou 40 personnes, debout ou assises par terre.
Donc on parle de rassemblements minuscules, à peine quelques dizaines de personnes, collées les unes aux autres, qui partageaient un repas dans un quartier surpeuplé. C'est l'antithèse absolue des immenses cathédrales froides et institutionnelles que le christianisme va construire des siècles plus tard.
Exactement. Et le truc fascinant, c'est que cette échelle très réduite, c'était en fait leur plus grande force.
Comment ça, une force ?
Bah, dans une société impitoyable, sans aucune véritable sécurité sociale d'État, un petit groupe de 30 personnes qui s'engagent fermement à prendre soin mutuellement des malades, des veuves et des pauvres, ça crée un tissu de survie d'une résilience extraordinaire.
C'est un filet de sécurité humain.
C'est une nécessité vitale, et particulièrement pour des artisans migrants comme Prisca et Aquila, qui se trouvaient, eux, exclus d'office des autres réseaux d'entraide de la ville.
Ah oui, ces fameux réseaux d'entraide, ce sont les guildes professionnelles, c'est ça ?
Les syndicats de l'époque, en gros.
Dans l'Antiquité, si j'ai bien compris, si on était menuisier, boucher ou travailleur du cuir, on rejoignait une guilde, un syndicat de métier, et ça permettait de réguler les prix, de s'entraider en cas de coup dur, et surtout de garantir que quelqu'un paierait pour vos funérailles.
Oui, avoir des funérailles décentes, c'était une préoccupation obsédante à l'époque.
Mais je crois comprendre qu'il y avait une barrière infranchissable pour les premiers chrétiens et les juifs pieux qui voulaient y adhérer. Ils ne pouvaient pas y rentrer.
C'était impossible pour eux, oui. Parce que la religion polythéiste et la vie civique ou professionnelle, c'était complètement indiscernable. Les réunions de ces guildes, c'était pas de simples conseils d'administration autour d'un tableau de chiffres.
Qu'est-ce qu'ils faisaient alors ?
Elles commençaient invariablement par des prières publiques, des sacrifices d'animaux et des libations de vin, tout ça dédié aux divinités patronnes de la guilde, que ce soit Minerve, Bacchus ou d'autres dieux locaux.
Donc tu devais honorer les dieux païens pour faire partie du syndicat ?
Exactement. Participer à la vie syndicale impliquait obligatoirement d'être en communion avec ces rites païens. Donc, en refusant de s'y soumettre par pure conviction de conscience, nos artisans comme Paul ou Aquila s'excluaient automatiquement de la protection économique du syndicat.
Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes.
La petite communauté réunie dans le triclinium, ça devenait donc leur seule et unique assurance-vie.
Une micro-société de survie soudée par l'exclusion économique et sociale. Mais bon, on le sait, grâce à l'histoire, cette communauté, elle ne va pas rester éternellement confinée dans des salles à manger exiguës.
Heureusement.
Et c'est là que l'analyse de Kinner pointe vers un véritable point de bascule temporel. Après des mois de labeur exténuant sur ce cuir puant, un événement vient changer totalement la donne. Les anciens collaborateurs de Paul, Silas et Timothée, débarquent enfin de la province de Macédoine.
C'est un tournant majeur.
Et ils n'arrivent pas les mains vides. Ils apportent un soutien financier massif, une grosse collecte qui a été réalisée par la lointaine communauté de Philippe.
Un transfert de fonds qui change tout.
Ouais. Ce don permet à Paul de lâcher enfin ses aiguilles à cuire pour prêcher et débattre à temps plein. Il a désormais le temps, tout en gardant son indépendance locale, parce que le truc c'est qu'il n'accepte toujours pas l'argent des Corinthiens pour éviter le clientélisme dont on parlait tout à l'heure.
C'est très habile de sa part. Et le résultat de ce changement de rythme, il est immédiat et franchement explosif. Le temps libéré lui permet une confrontation d'idées beaucoup plus directe et publique.
Et ça porte ses fruits.
L'impact est tel que Crispus, qui est carrément le chef de la synagogue de Corinthe, décide de se convertir et de rejoindre le groupe de Paul.
Le chef de la synagogue, ça devait être une figure hyper respectée et aisée de la diaspora locale.
Complètement. Et ce ralliement de très haut niveau, ça provoque une fracture inévitable et irréparable au sein de la communauté établie. Paul est alors contraint de quitter l'enceinte de la synagogue pour ses enseignements.
Et pour montrer qu'il n'a vraiment pas froid aux yeux, devinez où il installe son nouveau quartier général.
C'est la provocation ultime.
Mais oui, juste à côté. Littéralement le bâtiment mitoyen, dans la maison d'un riche sympathisant nommé Titus Justus qui possédait manifestement la citoyenneté romaine. Franchement. Provoquer la communauté établie en s'installant à sa porte, c'était la recette garantie pour un désastre sécuritaire.
C'était risqué, très risqué.
On sent dans les textes que la tension politique atteint un sommet de dangerosité. D'ailleurs, c'est précisément à ce moment de stress extrême que Paul reçoit une vision nocturne.
La fameuse vision.
Selon les textes, la figure de Jésus lui apparaît et lui dit « N'aie pas peur ». C'est super intéressant de noter d'ailleurs dans les commentaires de Kenner que « n'aie pas peur », c'était une formule d'ouverture très classique dans le monde antique pour rassurer les mortels lors de visions oraculaires divines.
C'est un code culturel fort.
Et cette assurance surnaturelle semble suffire à le rassurer puisqu'il décide de s'ancrer dans la ville et d'y rester 18 mois entiers malgré la tension.
Et cette durée précise de 18 mois, elle est vraiment capitale.
Pourquoi ?
Car c'est ici que l'archéologie moderne vient télescoper le récit religieux d'une manière assez spectaculaire.
Ah, on adore l'archéologie.
La tension dans la ville finit par imploser et les opposants de Paul décident d'en finir par la voie légale. Ils le traînent publiquement devant le plus haut magistrat romain de la région, le proconsul d'Achaïe, un homme qui est nommé Gallion.
Gallion, attends, le frère aîné du célèbre philosophe Sénèque, le conseiller de l'empereur Néron.
Lui-même.
La haute noblesse de l'Empire.
Le procès a lieu sur l'agora de Corinthe, devant le Béma. C'était cette immense plateforme de jugement en pierre qui dominait la place publique, un tribunal à ciel ouvert. Mais là, je me permets de jouer l'avocat du diable un instant pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, quand on lit des textes fondateurs qui ont une forte dimension miraculeuse et spirituelle, on peut légitimement se demander s'ils n'ont pas été reconstruits des siècles plus tard par des fidèles trop zélés. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'auteur de ce livre, Luc, sur la présence de ce gouverneur précis à ce moment très précis ?
C'est l'une des questions les plus fascinantes de l'historiographie antique. Et c'est là que les grands experts laïcs du droit romain, comme le célèbre historien A.N. Sherwin-White, interviennent. Ils soulignent la précision redoutable de ce récit.
Ah ouais ? Comment ils le prouvent ?
Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert à Delphes, en Grèce, une inscription gravée dans la pierre.
Une stèle ?
Oui, un rescrit de l'empereur Claude lui-même. Et ce document administratif incontestable prouve formellement que ce fameux Gallion a pris ses fonctions de proconsul en juillet de l'an 51 après Jésus-Christ.
D'accord, 51.
Et les archives indiquent également qu'il a souffert d'une fièvre régionale peu après et qu'il a dû démissionner hâtivement, quittant son poste avant l'été de l'an 52.
Attends, donc ce puissant gouverneur romain n'est resté en poste qu'une toute petite année ?
Précisément, même pas un an complet. Et c'est ce qui rend le récit de Luc, l'auteur des Actes, si robuste et impressionnant.
Ben oui, parce qu'il n'avait pas Internet.
Voilà. Un faussaire ou un compilateur qui écrirait l'histoire à des centaines de kilomètres de là, des décennies plus tard, il n'aurait eu absolument aucun moyen de vérifier l'identité exacte d'un gouverneur dont le mandat fut si bref.
Il n'y avait pas de Wikipédia pour vérifier la chronologie des proconsuls.
Exactement. Il n'existait pas d'encyclopédie universelle consultable facilement. Donc, nommer Gallion avec son titre exact et au bon endroit, ça prouve que l'information provient de témoignages oculaires directs.
C'est fou !
Cette découverte épigraphique fournit donc aux historiens une encre chronologique absolue. Nous savons désormais, avec une certitude scientifique, que Paul a été jugé par Gallion à l'été 51.
Et par déduction, vu qu'il est resté 18 mois, ça place son arrivée à Corinthe à la fin de l'an 49.
C'est ça. Exactement au moment de l'édit d'expulsion de Claude à Rome.
La boucle est bouclée. Quand on prend du recul sur toute cette chronologie, c'est époustouflant d'observer les engrenages de l'histoire.
C'est fascinant.
Je veux dire, tout commence avec un empereur qui signe un décret d'expulsion dans les riches palais de Rome, juste à cause d'un malentendu linguistique sur le mot Christ.
Une simple erreur de prononciation à la base ?
Et ça jette des entrepreneurs de la haute société, comme Prisca, sur des bateaux précaires. Ça les force à atterrir dans un carrefour commercial sulfureux, rempli de marins de passage. Là, ils rencontrent un intellectuel traumatisé qui refuse la facilité du clientélisme et qui préfère travailler le cuir à la sueur de son front au milieu des odeurs fortes et sous la menace des pots de chambre balancés par les fenêtres.
C'est un sacré parcours du combattant.
Et de ces conversations silencieuses, tu vois, cousues de fils imperméables dans cet atelier, naît une micro-société de survie. Et elle est si résiliente qu'elle finit par provoquer un procès public devant l'élite absolue de l'Empire romain.
Ce parcours, il illustre parfaitement une réalité fondamentale en histoire.
Laquelle ?
Les dynamiques de changement profond dans les civilisations, elles ne descendent pas uniquement du sommet de la pyramide sociale. Bien au contraire.
C'est pas juste les rois qui font l'histoire.
L'information, les idées nouvelles, les révolutions culturelles, tout ça se propage avec une efficacité redoutable par la base, par les réseaux d'artisans, par les routes des migrations forcées et surtout par ces petites connexions interpersonnelles qui sont tissées dans des conditions de survie partagées.
Ouais, et c'est ce qui rend l'étude de l'Antiquité si pertinente pour nous aujourd'hui. Quand on écoute ça, on réalise que si on cherche à faire grandir une idée, un mouvement ou un projet aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou dans la sphère associative, il faut se rappeler que les bases solides ne naissent presque jamais dans un confort aseptisé.
Elles ont besoin de friction.
Elles émergent du travail de fond acharné, de l'indépendance de pensée face aux influences financières dominantes et de la création de relations humaines d'une profondeur absolue.
La résilience ne s'achète pas avec un mécène. Elle se forge dans l'adversité du quotidien.
C'est joliment dit.
Et c'est peut-être la réflexion la plus déstabilisante que nous offre ce pan d'histoire pour conclure notre analyse.
Je t'écoute.
Si le mouvement conceptuel et éthique qui a fini par remodeler l'architecture même de notre civilisation occidentale a pu naître dans le bruit chaotique d'un atelier corinthien...
Entre deux peaux de bête.
Voilà. Porté par des réfugiés maniant l'haleine entre deux ruelles malodorantes. Il faut se demander, quelles sont les idées révolutionnaires qui émergent en ce moment même, autour de nous, et que nous ignorons avec mépris ? Juste sous prétexte qu'elles proviennent des mauvais quartiers ou des travailleurs manuels que notre société considère comme invisibles.